comment se construit la cote d'un artiste. C'est le peintre Guillaume Bresson qui nous a franchement aidés.
Donc là, c'est une peinture que j'ai peinte en 2008, qui mesure 1,70 m sur 3 m et qui représente une grande scène de bagarre la nuit, comme ça, dans un parking en extérieur.
Vous vous rappelez du prix auquel il est parti ?
Il me semble que c'était 30 000 euros, mais je ne suis pas très sûr.
Parce que là, en 2008, vous étiez sorti des Beaux-Arts. C'est un des premiers tableaux que vous vendez et tout de suite, vous atteignez 30 000 euros.
Non, pas tout de suite. Moi, je suis sorti en 2007 et j'ai eu d'abord une exposition à Paris où ce n'était pas ces prix-là. C'était moins cher. C'était plutôt autour de 10 000, 12 000 euros, les grands formats. Mais après, c'est vrai qu'en un an, ça a augmenté assez vite. Ouais.
Magnifique peinture de Guillaume Bresson, des scènes de rixes, de batailles, comme de grands tableaux classiques, avec un travail sur la grisaille, le clair-obscur, mais le décor est contemporain, un parking, une cité. Et pour remplacer les armures, il y a des joggings. En 10 ans, le prix de ces grands formats a donc été multiplié par 5, un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Mais comment y arrive-t-on ? Ce qu'a découvert Maïwenn Bordron, notre reporter, c'est que la cote d'un artiste ne résulte pas du hasard, elle se fabrique. Mais bien sûr, il y a 10 ans, l'artiste Guillaume Bresson n'en avait pas conscience.
C'est en amont. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en amont dans l'école. Quand on passe les diplômes et tout ça, c'est des jurys qui viennent de l'extérieur et qui sont des galeristes, des critiques et tout ça, et qui déjà peuvent vous remarquer. Et puis voilà.
Et à l'école, on ne vous apprend pas justement à cette relation avec le galeriste, parce que c'est quand même hyper important après, une fois sur le marché.
Bah, je pense que ce serait bien que ça se fasse. Au moins, ce serait clair, parce que, à mon avis, c'est un peu tabou. C'est-à-dire qu'on se dit... L'élève, il est là pour apprendre à faire de l'art, tout ça, comme si c'était totalement détaché de la réalité économique et des nécessités matérielles. Alors qu'en fait, on voit bien qu'en dessous de ça, il y a tout un tas de réseaux qui se créent dans l'école et tout, mais c'est pas explicite, c'est pas dit.
2 ans après votre sortie de l'école des Beaux-Arts, vous avez déjà exposé à la FIAC.
En 2009, la première fois, ouais. Moi, c'était mon galeriste à l'époque de Bruxelles. Je venais de faire une expo chez lui à Bruxelles. Et du coup, il avait été gentil, il m'avait dit « Bon, ben, je vais mettre le tableau qu'il y avait dans l'expo, je vais le mettre sur le stand de la FIAC. »
Et il a été vendu ?
Ben, en fait, il était déjà vendu avant de... C'est pour ça que je dis qu'il a été sympa, parce qu'il me l'a mis sur le stand alors qu'il n'était pas à vendre. Ce qui est très rare dans une foire, quoi.
Pourquoi il a fait ça, du coup ? Pour vous faire connaître un petit peu ?
Ouais, c'est ça, pour me donner de la visibilité.
Le galeriste a un rôle clé pour faire entrer puis faire connaître l'artiste sur le marché de l'art. Mais une fois qu'il est connu, comment stabiliser sa cote ? C'est la question que je vais poser à Nathalie Obadia, la galeriste qui travaille avec Guillaume Bresson. J'ai rendez-vous chez elle, à Paris, dans le 7e arrondissement, car elle rentre tout juste de New York.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, venez voir, vous êtes installé. Et c'est là où il y a le...
Voilà, il est là, le tableau de Guillaume. Après, il y a Fabrice Hibert, ça c'est notre artiste de la galerie. Ça, c'est Fiona Ray, qui expose à la galerie aussi.
Expliquez-nous un petit peu comment ça marche pour le galeriste, pour faire entrer un artiste et le faire connaître après sur le marché.
Il s'agit pour la galerie, une fois qu'on choisit de travailler avec un artiste, ici comme Guillaume Bresson, je dirais que le cœur de notre travail, c'est d'influencer les gens influents. Et le travail d'une galerie, c'est justement d'atteindre les cercles de pouvoir que sont la critique, que sont les décideurs, les commissaires d'exposition, les conservateurs des musées et bien entendu les collectionneurs les plus influents. Donc notre rôle, surtout qu'en plus Guillaume fait très peu de tableaux, il en fait peut-être 3 ou 4 par an, c'est à chaque fois, on va dire, d'une certaine façon, de placer l'œuvre dans un endroit absolument stratégique. Là, justement, nous venons d'atteindre une première victoire. C'est celle, justement, de la première acquisition d'une œuvre de Guillaume Bresson dans une institution française, puisque c'est le musée des Beaux-Arts de Toulouse. Voilà, nous sommes arrivés à ce qu'un très, très beau tableau de Guillaume rentre dans les collections françaises.
Comment se fixe le prix d'une œuvre, justement ?
C'est un ensemble d'ingrédients. Le fait de participer à la Biennale de Venise, d'avoir une exposition personnelle au Centre Pompidou, une exposition à la Tate, par exemple, d'avoir des articles dans des revues influentes comme Art Forum aux États-Unis, où on sait publiquement qu'on fait partie de la collection, je sais pas, d'LVMH ou de Monsieur Pinault, de Ella Ibrod aux États-Unis. Voilà, petit à petit, forcément que la demande des artistes va augmenter, et donc on peut effectivement, là, s'ajuster et commencer à augmenter de 10%, de 15% tous les 2 ans. Voilà, ça se fait de manière tout à fait, on va dire, normal et logique.
Le prix d'une œuvre monte donc avec l'accord du galeriste. C'est un acteur clé du marché, mais ce n'est pas le seul. Sans le soutien du collectionneur, par exemple, la cote de l'artiste ne peut pas décoller. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Tout le monde connaît François Pinault, Bernard Arnault. Mais pas besoin d'être milliardaire pour être influent. Jean-Claude Volo est le PDG d'une entreprise aéronautique basée à Toulouse. Lui, il reçoit 5000 invitations par an de la part de galeristes et de foires.
Bonjour.
Maïwenn Bordron, France Inter.
Jean-Claude Volo.
Les budgets que je peux mettre varient de 100 000 à 300 000 suivant les années. Alors si la pépite coûte plus d'un million d'euros, je la laisse au suivant. Pour un million d'euros, je préfère avoir 1000 artistes à 1000 euros qu'en avoir un à 1 million d'euros. Comme je spécule pas, que je revends pas, mon but c'est de trouver des super artistes très peu connus, de les aider même pour beaucoup parce que j'ai toujours 4-5 artistes que j'aide jusqu'à ce qu'ils décollent.
Est-ce que vous avez des exemples concrets de jeunes artistes que vous avez contribué à aider ?
Récemment, je suis allé à un salon qui se passait à Gisors, d'art singulier, c'est au milieu de la Haute-Normandie. Niveau global, assez moyen. Et toc ! Il y avait une petite jeune femme là qui dessine. J'ai trouvé son travail incroyable, extraordinaire. Elle me dit 50 euros. Évidemment, j'ai acheté 10. Et bien, je lui ai dit, il faut arrêter de vendre 50 euros, il faut mettre 500 euros, hein. Minimum. Après, je l'ai greffé sur une galerie qui va la présenter au Salon d'art singulier et brut de Paris, là. Et rapidement, des collectionneurs vont se rendre compte de l'intérêt qu'elle présente.
Comment vous, vous vous êtes dit, ça vaut pas 50 euros, il faut qu'elle monte?
Non, parce que si je lui dis c'est 500 euros pour toi, ça veut dire que la galerie, elle a 1000 euros, parce qu'il faut que la galerie, elle vive. Et j'estime, moi, que des dessins A4 de cette qualité-là, sur le marché aujourd'hui, ça vaut 1000 euros, parce que je connais à peu près les prix qui se pratiquent sur les marchés. Et à mon avis, c'est des bons prix d'accroche. Parce que le prix d'une œuvre d'art, c'est celui que les gens sont prêts à mettre, c'est rien d'autre. Si vous mettez des prix astronomiques et vous ne vendez rien du tout, l'artiste n'existe pas.
Ça, c'est le raisonnement d'un passionné. Mais dans certains cas, le prix d'une œuvre, c'est aussi le résultat d'une stratégie de spéculation. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? J'ai posé la question à Nathalie Moreau. Elle est professeure en sciences économiques à l'Université de Montpellier et spécialiste du marché de l'art.
Aujourd'hui, sur le marché international, on est dans une phase qui est plutôt spéculative, mais qui n'est pas la même que celle des années 90, puisque à la fin des années 80, c'était les traders de la finance qui étaient arrivés sur le marché de l'art. Et quand il y a eu des problèmes suite aux évolutions de la bourse, ben le marché de l'art s'est effondré. Aujourd'hui, la montée des prix au niveau international et les prix mirifiques que l'on observe sont dus notamment à l'explosion du nombre de milliardaires dans les pays émergents qui se tournent vers l'art contemporain, qui s'intéressent pas forcément de façon très très conséquente à la valeur artistique des œuvres. Ils achètent un nom. Il y a un effet de démonstration par rapport à leur pouvoir financier. Donc ces acteurs jouent un rôle très très important aussi dans la course à l'envolée des prix.
Et quels sont les types de facteurs un peu irrationnels qui peuvent faire monter soudainement la cote d'un artiste ?
Je ne sais pas si c'est irrationnel. En tous les cas, ce n'est pas lié à la valeur artistique. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des stratégies d'entente de personnes dans les ventes aux enchères, notamment par le système de prix garanti, qui est un mécanisme où là, il y a vraiment collusion entre des personnes sur le marché pour créer des prix records, offrir un signal au marché disant que c'est un prix record et créer un emballement. Et c'est une pratique qui est tout à fait autorisée par la loi. Et puis, vous avez les scandales. Quand vous avez un scandale qui apparaît autour du travail d'un artiste, ça fait beaucoup de buzz médiatique et les prix peuvent augmenter à ce moment-là.
Exemple d'artiste qui a vu sa cote augmenter suite à un scandale, Damien Hirst. Son requin mort flottant dans un aquarium s'est vendu à 10 millions d'euros dans les années 2000. Il fait partie de ces artistes superstars qui produisent des œuvres toujours plus coûteuses. Alain Quémin est professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8.
Alors on constate en effet une course au gigantisme, qu'il s'agisse de la taille des galeries qui deviennent toujours plus énormes, qu'il s'agisse effectivement des collections, beaucoup de collectionneurs privés en viennent à créer leur propre musée, et puis également les artistes participent à cette course avec ces œuvres qui elles aussi sont toujours plus énormes, marquées, accompagnées par des niveaux de prix toujours plus spectaculaires.
On peut penser par exemple à des œuvres comme le Balloon Dog de Jeff Koons.
Absolument, des œuvres comme le Balloon Dog de Jeff Koons ou alors l'exposition qui était montée, présentée par Damien Hirst ou dans les deux sites de la Fondation Pinault durant tout cet été, des statues monumentales en particulier, utilisant des métaux précieux pour certaines d'entre elles. Donc tout cela montrait bien qu'on était dans des coûts de production absolument pharaoniques.
Donc aujourd'hui, un artiste qui utiliserait des matériaux dits banals verrait sa cote par exemple stagner.
Quand les artistes sont des artistes qui ont déjà une très forte réputation, ils peuvent continuer à pratiquer leur art avec des techniques traditionnelles qui n'ont pas des coûts particulièrement élevés, par exemple la peinture, mais on voit bien que pour se démarquer de leurs concurrents, certains développent des stratégies, et en particulier les nouveaux artistes qui aspirent à occuper les positions les plus en vue qui sont les leurs, certains artistes ont complètement intégré les techniques qui seront des techniques extrêmement coûteuses, donc c'est également une façon d'instituer une forme de barrière à l'entrée de la concurrence que de se lancer dans des procédés de production qui sont extrêmement élaborés et extrêmement coûteux. On est toujours dans un système de prix record qui a tendance à augmenter, à croître sans cesse, avec une forme d'incertitude dans le contexte actuel, puisque tout le monde se dit bien que les prix sont devenus tellement pharaoniques qu'il y a un moment où ils risquent soit de se tasser, soit carrément de chuter.
Sur le marché de l'art contemporain, comment se fabrique la cote d'un artiste ? C'était le reportage de Maïwenn Bordon.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.